Arnaque Campagne. Bonjour, troisième étape dans la Drôme. Une visite s'impose d'emblée sur la départementale 554 au village de Clioucla en direction de Loriol. Cette commune de 650 habitants fut un haut lieu de la poterie vernissée. La dernière grande fabrique du village cessa ses activités en 2013. Et à cette date, la commune avait choisi d'acquérir le domaine, aidée par une association d'habitants pour animer le lieu. Association qui nous a écrit, elle s'appelle D554 Clioucla. Elle emploie 4 à 5 personnes sur le site. Elle gère le musée des pièces anciennes. Elle organise des expos, une biennale réservée aux céramistes de terre vernissée qui a choisi comme slogan, ça nous plaît beaucoup, les potiers sont vernis, les grands bâtiments de la fabrique sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, ce qui explique en partie les 20 000 visiteurs annuels de ce patrimoine. Il y a deux liens avec ce haut lieu de la poterie vernissée à nos pages d'émission. Et nous allons tout de suite en direction de Romans-sur-Isère pour appeler Monique Minizini, présidente d'une épicerie sociale et pédagogique qui fêtera bientôt ses 20 ans d'existence. Et puis détour ensuite par les studios de France Bleu Normandie Caen pour ouvrir un dossier du dernier numéro du magazine Village sur le retour en force des métiers manuels avec Sylvie Le Calvez.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Monique Minizini, bonjour.
Bonjour.
Monique.
Bonjour Philippe.
Vous présidez une belle épicerie sociale et pédagogique qui est rue Guillaume à Romans-sur-Isère. En 2019, elle va fêter ses 20 ans. Une épicerie sociale, on comprend, mais pourquoi pédagogique ?
Pédagogique parce qu'on essaie de mettre l'accent sur l'équilibre alimentaire et surtout aussi parce que on a une conseillère en économie sociale et familiale qui fait de l'accompagnement personnalisé auprès des personnes qui viennent faire leurs courses à l'épicerie.
L'épicerie, c'est donc 2 salariés avec cette conseillère et un responsable d'approvisionnement épaulé par une vingtaine de bénévoles. Qui peut bénéficier des avantages de cette épicerie ?
Alors, toutes les personnes qui sont en précarité, en fait, elles sont orientées par les travailleurs sociaux ou par le bouche à oreille. On leur demande de fournir des pièces justificatives de leurs revenus et des dépenses. Et les dossiers passent en commission et en fonction des situations et en fonction des places disponibles, les dossiers sont retenus ou pas.
Et vous demandez un engagement sur un projet de la part de ces personnes ?
Tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne est acceptée pour faire ses courses à l'épicerie, on va lui donner une somme d'argent allouée. Pour une personne seule, c'est 6 euros pour la semaine. Ça équivaut, il faut savoir quand même, à un panier de 50 euros en grande surface. Et ça augmente en fonction du nombre d'enfants ou de personnes adultes présents. Et elles sont accompagnées individuellement par un ou une bénévole. Et régulièrement, la famille viendra faire un point avec la conseillère pour voir quelles choses sont réalisées avec les économies faites à l'épicerie. Dès le départ, on demande aux gens de dire qui est pour vous le plus important de régler. Est-ce que c'est des loyers en retard ? Est-ce que c'est le paiement de la cantine scolaire, etc. Et donc, régulièrement, la conseillère va vérifier que la situation s'améliore et que les personnes sont bien engagées dans le projet qu'elles ont mis en place au départ.
La démarche est très suivie, bien encadrée, très sérieuse, vraiment pertinente. Vous accueillez chaque semaine 80 familles. Et comment vous approvisionnez votre épicerie ?
Alors, l'épicerie, elle est approvisionnée d'abord par la Banque alimentaire Rhône-Alpes Auvergne. Et ensuite, on a des dons par les grandes surfaces. Et on a aussi des plus petits fournisseurs, comme beaucoup de personnes qui sont des boulangers locaux, qui nous approvisionnent en pain et en viennoiserie. Et on a aussi une plateforme où on achète des produits d'entretien à moindre coût. C'est une plateforme qui s'appelle les dons solidaires.
Mmh. Et puis il y a une partie pédagogique aussi qu'on n'a pas mentionnée concernant votre structure qui est vraiment très originale. Ce sont les ateliers nutrition, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la pédagogie sur les qualités nutritives des produits et des aliments. Et par exemple, dans les achats, vous limitez à 10% les produits salés et sucrés.
Tout à fait, parce qu'on pense qu'il est extrêmement important, j'ai envie de dire, de limiter les dégâts au niveau alimentaire. Or, les personnes qui sont en précarité, très souvent, ont tendance à aller vers ce genre de produits plutôt que les produits à cuisiner. Et c'est ça qu'on voudrait changer aussi dans leur mode d'alimentation. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a ces ateliers. On a deux ateliers par semaine, un atelier qui est théorique et un atelier cuisine où les personnes s'inscrivent et viennent préparer un repas avec un ou deux bénévoles et ce repas est partagé. Il faut savoir que à chaque fois qu'une personne participe à un atelier, elle gagne une semaine d'accès supplémentaire. Parce que en précarité, c'est pas toujours facile d'aller vers les autres. Mmh. C'est pour ça qu'on a mis ce petit plus.
Chapeau, madame. Vous m'impressionnez avec cette épicerie sociale et pédagogique. Qui est une page Facebook, vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. C'est un roman sur Isère. Merci beaucoup, Monique.
Je vous en prie, merci à vous. On apprécie beaucoup votre émission, donc on est très fiers. Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Si vous le permettez, on va faire un petit retour en arrière parce que je m'étais engagé à vous parler en Isère d'un lieu. Faute de temps, je n'ai pas pu le faire. C'est un lieu exceptionnel qui s'appelle une association d'abord, le ABER, ABER Hébergement Saint-Paul. Il y a de quoi raconter sur les engagements pour sortir les personnes de la rue, français ou étrangers, hein, les SDF, les familles avec ou sans enfants. Le ABER, c'était l'œuvre d'abord du père Fréchet, débarqué en 63 auprès des exclus et pauvres du quartier des Alpins à Grenoble, avec des amérantes d'un bidonville dans lequel on survit sans eau ni électricité. Le QG était l'église Saint-Paul, alors en construction, et puis autour, des logements provisoires pour la foule des sans-papiers, des sans-abri. Le père Fréchet, il laissera toutes ses forces après 48 ans de bataille. Aujourd'hui, les actions de l'association se poursuivent et s'étendent autour d'un parc de 35 logements offerts aux personnes de la rue pour une durée variant entre 18 mois et 3 ans. À partir de cette offre, un ensemble de services pour un retour à l'autonomie est assuré par deux éducatrices salariées de l'association, services administratifs, aide à la santé, à l'éducation, à l'obtention d'un travail. Et bien sûr, l'association bénéficie de subventions pour assumer le coût des loyers, mais elle est en permanente recherche de personnes qui souhaitent mettre un logement à disposition des plus démunis, ainsi que des parrains qui peuvent participer au financement d'un logement. Le trait d'union ABERT, ABERT.fr pour l'adresse. Allez les aider si vous le souhaitez. Je vous y encourage, ils font un travail depuis 50 ans qui est absolument remarquable. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village, le site c'est villagemagazine.fr. Il y a quelques semaines, on parlait de la ruralité en quête de nouveaux médecins généralistes. Aujourd'hui, un autre dossier de ce numéro d'automne, c'est le grand retour des métiers manuels. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que nous avons reçu un courrier d'Émilie qui travaille dans un milieu hospitalier, les médecins. Elle en a un petit peu assez, alors je vais passer les détails. Elle dit, en discutant avec des amis et des collègues, nous en arrivons pour certains à la même conclusion, l'envie de se reconvertir, de se retourner vers la nature, de revenir à l'essentiel, à des choses simples. Ben, on a un exemple avec le grand retour des métiers manuels.
Oui, c'est vrai que c'est un phénomène. Alors, c'est dur à mesurer, hein, mais quand même, en 2010, un créateur d'entreprise sur quatre est diplômé de l'enseignement supérieur. Mmh. Et 31% des nouveaux entrepreneurs viennent d'autres horizons professionnels. C'est incroyable. Ils sont formés bac plus 4, 5, 6, 7 ou médecins. En médecine, c'est très, très dur. Et finalement, on se dit, ah, c'est pas ma voie, je vais faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est pratique. Voilà. Donc, c'est énorme. On est passé de 15% en 2010 2006 de personnes issues de l'enseignement supérieur dans l'artisanat à 26% en 2010. On a gagné 10% en 4 ans de diplômés de l'enseignement supérieur qui finalement vont être potiers, faire des plantes médicinales et aromatiques ou autre chose, travailler le cuir. Donc c'est une vraie ressource pour l'avenir parce que ces personnes, après, au-delà de travailler et de créer leur propre emploi, emploieront à leur tour des personnes sur les territoires.
Quand on se lance, encore faut-il y arriver et pouvoir en vivre. Alors, à chaque fois, c'est ça, c'est je gagne 3 fois moins.
Oui, alors il faut effectivement, on s'aperçoit, en tout cas au début, pendant les 2 premières années, qu'il y a un effort considérable à faire sur le pouvoir d'achat qu'on peut avoir, puisque en gros, on passe de 5000 euros parfois par mois à 1000, 1200 euros, ou le SMIC ou moins. Puis parfois, pendant 2 ans, on ne se rémunère même pas. On est déjà content quand on a réussi à se faire financer une formation pour se reconvertir. Et il faut quand même dire, et c'est un petit peu inquiétant, que plus, avec la fin par exemple du congé individuel de formation, plus ça va, plus la formation est accessible à un public non qualifié, ce qu'on peut comprendre, à des gens qui ont besoin de ça. Mais les personnes diplômées de l'enseignement supérieur qui veulent se reconvertir ont moins la possibilité d'accéder à ces formations et que ça fait des personnes qui pourront déjà avoir un mal-être dans leur métier et puis surtout qui ne viendront pas s'installer par exemple en milieu rural pour monter une activité, être capable de gérer une entreprise et d'embaucher à leur tour. Donc attention aussi à l'évolution des financements de la formation pour les reconversions.
Oui. Alors plusieurs questions sur les portraits que vous donnez dans ceux qui sont retournés à des métiers manuels. Jocelyne était ingénieur son à la Comédie Française dans la Nuit-Ras-le-Bol, elle est boulangère dans le Quercy. Agnès était biologiste, elle est agricultrice en l'Ariège. Ludovic était ingénieur, il a un atelier de cycle en Ardèche. Boris avait un magasin de musique à Toulouse, il s'est installé dans le Tarn, il est safranier, et il va ouvrir une ferme pédagogique. Qu'est-ce qui motive toutes ces personnes ?
La quête de sens déjà, d'avoir une qualité aussi environnementale autour de chez eux, de savoir faire des choses de leurs mains, qui ont du sens. Ils en ont marre des écrans. Souvent, ils disent, je passais des journées devant l'ordinateur ou dans des papiers, j'ai besoin de retourner à du réel, à du concret. Et c'est vraiment ça qui les anime, c'est de se dire, je travaille dans un autre cadre, à mon rythme. On voit bien, celui qui fait l'atelier de cycle, il dit, moi, je peux même y passer mes week-ends, quoi. Parce qu'effectivement, il se dit, je suis content, je vois concrètement ce que je fais, j'ai monté mon vélo. Et donc, il y a un besoin de ça aujourd'hui. Je pense que notre société a produit tellement de choses virtuelles ou d'écrans qu'il y a un besoin, quand on a fini parfois ses études, de commencer à être trop stressé, faire des burn-out, parce que beaucoup ont fait des burn-out aussi, à se dire, et si je changeais complètement et je faisais un métier manuel dont j'ai toujours rêvé, même petit parfois.
Alors, on peut se former, malgré les difficultés que vous annonciez tout à l'heure, on peut profiter d'aides comme celui de l'ACRE, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise. Ça permet d'élaborer un budget pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et puis, vous avez un rendez-vous à nous annoncer du 19 au 21 octobre ?
Ah oui, tout à fait. Du 19 au 21 octobre, en Occitanie, il y a l'opération Les Gestes Partagés. Alors, lesgestespartagés.fr pour aller sur le site internet. C'est une opération menée par Savoir-Faire et Découverte. Mmh. Et 60 artisans et commerçants ouvriront gratuitement leurs portes pour, par exemple, découvrir comment on fait du pain, le travail du cuir. Alors c'est pour tous ceux qui se questionnent ou bien sûr les parents qui vont emmener leurs enfants pour dire, attends, t'imagines ça mais pour plus tard, mais est-ce que vraiment ça va te plaire? On va aller mettre un peu la main à la pâte pendant 2 heures et voir si vraiment ça peut te convenir et puis te motiver. Et souvent, effectivement, une fois qu'ils ont vu, ils repartent passionnés en se disant, je vais peut-être plutôt me lancer dans un métier manuel. Donc les gestes partagés du 19 au 21 octobre en Occitanie.
Un tiers des entreprises artisanales sont en milieu rural. Elles emploient plus de 3 millions de personnes. Ça, c'est une grande réalité. C'est le grand retour des métiers manuels dans le numéro d'automne du magazine Village. Le site, c'est villagemagazine.fr. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Rappel des destinations à venir avec l'Ardèche, le Cantal, le Lot, et puis début novembre, la Corrèze, l'Allier, la Saône-et-Loire. Merci aux amis de l'Allier de nous écrire, saumon de l'Allier, saumon guerrier, comme disait Philippe Avron. Nicolas Stoufflet dans la Drôme, appuie les baronnies, c'est le jeu des 1000 euros.